Général Trinquant, vous êtes un expert reconnu en relations internationales, diplômé de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'École supérieure de guerre et du Royal College of Defence Studies de Londres. En opération, vous avez commandé au début des années 90 un bataillon au Liban. Et durant la crise en ex-Yougoslavie, vous étiez le conseiller de deux commandants des forces onusiennes. À partir de 1998, vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'OTAN, de l'Union européenne. Vous avez également été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU de 2002 à 2008. Vous intervenez régulièrement dans les médias et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Ce qui nous attend » qui est paru chez Robert Laffont en octobre 2023 et qui propose une analyse géostratégique, politique et militaire du monde à venir. Une guerre de haute intensité sous voûte nucléaire, c'est ce qu'on peut lire sur le site du ministère des Armées. Une guerre totale qui se déroule dans tous les champs de conflictualité. Et vous rappelez en préambule de votre livre que la Russie ne pensait pas s'engager, Florence l'a dit également, dans un conflit au long cours en Ukraine, et que les changements d'objectifs en cours d'opération se sont toujours avérés préjudiciables pour les puissances parties en guerre. Vous évoquez également le déclassement militaire, économique et démographique russe. Néanmoins, l'Ukraine n'était pas davantage préparée à cette guerre au long cours. Le pays est aujourd'hui confronté à une pénurie matérielle. Poutine a basculé en économie de guerre, il s'affaire. Et nous, les soutiens de l'Ukraine, avons perdu beaucoup de temps à envisager la réversibilité de la Russie. C'est ce que vous disiez à l'INALCO il y a quelques jours. Alors, la question qu'on s'est posée ensemble, c'est quelles sont les perspectives russes, défaites, victoires que peut espérer la Russie?
Merci. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Comme vous le disiez, un certain nombre d'entre vous doivent me connaître parce qu'ils me voient à la télévision, mais moi, ça me fait très plaisir de voir des gens, parce qu'on voit que des écrans, on voit que des caméras, et ça me fait très plaisir. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, puisque vous avez eu la gentillesse de citer mon livre, je vais commencer par la conclusion de mon livre. Et dans la conclusion de mon livre, je cite mon auteur préféré, pardon, que j'ai étudié lorsque j'étais en préparatoire à Saint-Cyr, Georges Bernanos, qui nous rappelle que la plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Et donc j'invite à tout le monde à surmonter son désespoir pour garder de l'espérance au cœur et arriver à tenir dans les situations dans lesquelles nous sommes. Alors vous savez qu'aujourd'hui, on a une particularité, on célèbre un anniversaire qui n'a rien à voir. Il y a 4 ans, nous commencions à être confinés dans le cadre du Covid. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que c'est le premier combat universel. C'est la première fois qu'il y avait une épidémie dans le monde entier et dans lequel tout le monde combattait. Qu'on était en Chine, en Russie, avec des méthodes différentes, évidemment. En Russie, en Chine, en Europe, aux États-Unis, partout. Moi, je revenais d'Afrique à ce moment-là. Et l'Afrique, habituée aux épidémies, commençait à s'organiser contre cette épidémie. Pourquoi je fais cette relation-là? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au contraire dans un monde qui se confronte. Une confrontation de deux mondes. Un monde que M. Poutine s'est inventé. Et il faut remonter, hein, c'est 2007, à la conférence de Munich, où il a dit qu'il allait lancer le combat contre l'unilatéralisme américain et qu'il souhaitait la création d'un autre monde. C'est ce que nous vivons actuellement. Et pour être très bref sur la partie historique, parce que vous la connaissez tous, donc ce n'est pas très intéressant, et revenir un petit peu à la période que nous vivons, où on a vraiment besoin d'espérance, mais pas seulement d'espérance, beaucoup de soutien. En fait, la guerre a commencé, on en parle, on dit ça fait 2 ans. Non, je rappelle que ça fait 10 ans. Simplement, les méthodes ont été différentes. En 2014, l'invasion de la Crimée et la parfaite réussite de ce que le grand stratège chinois Sun Tse annonçait. Faire la guerre sans faire de bataille. C'est-à-dire gagner sans un seul coup de fée. Et c'est ce qu'il a fait, ce qui s'est passé en 2014. Je vous rappelle les petits hommes verts. Tout le monde savait, c'était un faux-nez, que c'était les forces spéciales russes. Mais peu importe. Ils ont réussi leur coup, ont renversé et ont réussi à annexer l'Ukraine. Donc ça, c'était il y a la Crimée, pardon. Ça, c'était il y a 10 ans. Et puis il y a 2 ans, le 24 février, le président Poutine se doutait que ça se passerait pas exactement de la même chose, mais pensait qu'il allait pouvoir renverser rapidement le régime qui était en place à Kiev. Alors aujourd'hui, sur un certain nombre de réseaux bien orientés, les gens vous disent ah mais non, mais Poutine n'a jamais voulu faire ça. il a voulu simplement défendre les Russes du Donbass. Alors, j'explique que c'est certainement pour ça que les chars russes allaient faire du tourisme à Kiev, puisque je rappelle qu'ils étaient aux portes de Kiev. Donc il a cru que ça allait bien se passer, puis ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce qu'il y a eu deux résistances. Un président qui s'est levé, c'est pour ça que je reste debout, un président qui s'est levé et qui a dit « Moi, je ne veux pas de taxi, je veux des munitions et nous allons combattre. » Et un peuple qui a suivi. Parce que depuis 2014, ce peuple ukrainien avait compris qu'il allait être la proie. Et donc, s'est préparé à cette guerre. Alors, on ne se prépare jamais assez bien pour une guerre. Mais il s'est tellement bien préparé qu'il a quand même contraint l'armée russe à quitter la région de Kiev et à tout basculer vers le sud. Où, au passage, dans le sud, il avait remporté quelques succès. Trahison, pas trahison, on le saura un jour peut-être. Mais les forces russes sont passées de Crimée, ont franchi le Dniepr, ont pris Kherson et sont partis vers Nikolaïev pour aller vers Odessa, qui était l'objectif que voulait atteindre la Russie, puisque Odessa, et j'en reparlerai pour aujourd'hui, c'est le poumon économique de l'Ukraine. Donc c'est stratégique. Et donc, il a basculé toutes ses forces. Ça, c'était 2023. Et à l'été 2023, à la surprise de tout le monde, l'armée ukrainienne a réussi à contre-attaquer en région de Kharkiv et dans la région de Kherson. À Kherson, eh bien, l'armée russe a dû rebasculer de l'autre côté du Dniepr. On n'en parle pas assez, mais c'est une victoire assez extraordinaire. L'armée russe a dû reculer. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Le problème, là je parle en tant que militaire, et c'est toujours dur d'en parler en tant que militaire en termes, j'allais dire, en analyse sèche, après des témoignages que je viens d'entendre. Mais là, la Russie, on lui a laissé, je dis « on », parce que les Ukrainiens l'ont fait, mais nous aussi, et je viendrai après à la situation actuelle, le temps d'organiser un système défensif, le général Sourovikin, dont au passage, si quelqu'un en a entendu parler aujourd'hui, qu'il me le dise. On n'entend plus parler. On l'a vu après qu'il ait suivi la rébellion du mois de juin, on l'a un peu aperçu, et puis il a disparu. Eh bien, il a installé une ligne extrêmement bien préparée entre le Dniepr, globalement, et Kharkiv à peu près. Et cette ligne défensive, c'est la force de la Russie aujourd'hui. Et les Ukrainiens, alors qu'ils avaient pris Kherson, date facile à retenir, 11 novembre, a été prise le 11 novembre, n'a pas poussé l'ennemi l'épée dans les reins, comme on dit dans la cavalerie. Et donc, les Russes se sont installés pendant 6 mois. Les Ukrainiens ont utilisé le matériel, les unités formées en Occident, en Pologne, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et ont attaqué et n'ont pas réussi. Et donc, ça a été l'échec. Et donc, comme dit Victor Hugo dans Waterloo, la victoire changea de camp. La victoire changea de camp, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Russes disent, parce qu'ils ont oublié Kiev, ils ont oublié Kherson, ils ont oublié tout ça. Et ils vous disent, on a gagné à Bakhmout, probablement 40 000 morts de chaque côté. On a gagné à... Merci. 16 000 hommes, probablement du côté russe. On ne sait pas très bien. Au passage, les chiffres sur les morts et les blessés, on n'en sait rien. Le président Zelensky dit 30 000, il est probablement très en dessous du chiffre. Et les Russes, quand on fait le décompte, on arrive à 300 000 pertes, morts et blessés. C'est absolument considérable. Donc aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle le front russe a tenu et commence à avancer. Je regardais les cartes tout à l'heure. La progression, ça gratte un peu partout. Et donc l'Ukraine est dans une situation difficile. Pour ça que 2024, je disais, il faut garder l'espérance, mais pas que le soutien. Pourquoi ? Parce que Poutine, qui a terminé son procédure administrative de nomination à la présidentielle de ce soir, j'appelle pas ça une élection, c'est un processus où il a fait une primaire en éliminant, soit par le poison, soit par d'autres moyens, les opposants, Ce soir, il est élu. Au passage, je souligne que le président de la République vient de déclarer qu'il ne le féliciterait pas. C'est une bonne nouvelle. Et donc, il a gagné. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? On ne parle plus du tout. Alors si, vous avez Medvedev, enfin, qui joue le clown pour son public. Mais l'objectif stratégique de Poutine, je pense, aujourd'hui, est de conquérir, quand je dis aujourd'hui, c'est cette année, 2024, peut-être 2025, c'est de conquérir les oblasts qu'il a annexés. Les premiers, c'est Luhansk, Donetsk. Ça, c'est peut-être à sa portée. Et puis, c'est une première marche. Parce que le régime des Poutines s'est réorganisé. Après ce qui vient de se passer, il a réorganisé l'économie de guerre. Il verrouille complètement l'opinion publique. Il verrouille le système, dont je répète que ce n'est pas un système politique, c'est un système mafieux. Il distribue les prébendes. Et donc ce système mafieux qu'il a réinstallé, eh bien pour lui, c'est ce qui permet la survie du régime. Et donc, à terme, ça veut dire que son seul objectif, c'est de continuer à faire vivre le régime comme ça. Et donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il s'arrêtera là. Et nous avons de bons exemples pour cela. Tous les pays qui ont été libérés dans les années 90, je dis bien libérés, je rappelle que l'Europe de l'Est était sous le joug de l'Union soviétique. Et ils ont été libérés. Je vous rappelle que les pays baltes n'étaient pas plus reconnus comme des pays par la Russie. Donc, il y a une capacité. La deuxième capacité, là je parle de guerre asymétrique, hybride. Il y a deux enclaves que je vous demande de bien regarder sur les cartes. Vous ne les voyez pas ici, vous en voyez une. C'est la Transnistrie, qui est à côté de la Moldavie. Enclave qui vient de demander au président Poutine la protection de la Russie. L'autre enclave qu'on regarde beaucoup moins, c'est Kaliningrad. Kaliningrad, elle est au cœur de l'Europe. Elle est entre la Lituanie et la Pologne. Vous imaginez quelles opérations peuvent être montées à partir de cette enclave ou de la Transnistrie. La déstabilisation qu'on peut apporter aussi bien vers la Moldavie, qui souhaite rejoindre l'Europe, que entre la Lituanie et la Pologne. Donc c'est pour ça que je dis que, attention, l'étape que vise le président Poutine à court terme, qui est l'annexion des oblasts actuels, sur lequel il met le paquet, sur lequel les Ukrainiens ont beaucoup de mal à résister. Soyons objectifs et réalistes. Nous espérions une victoire l'été dernier par une offensive ukrainienne. Elle n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, l'Ukraine doit d'abord résister. Résister. Et ça n'est pas qu'à l'Ukraine de résister. Là, je vais en venir tout de suite à ce qui se passe aujourd'hui. Et en particulier en Europe. Toujours mon auteur favori, Bernanos, disait en 1914, pourvu que le derrière tienne. Quand il parlait du derrière, il parlait de nous, il parlait de l'arrière. Il parlait pas des soldats qui sont au front, c'est l'arrière. Et nous sommes l'arrière de l'Ukraine. Nous sommes, nous, Européens, vers lesquels l'Ukraine espérait, nous sommes son arrière. Vous aurez noté un infléchissement net de la position française depuis quelque temps, depuis 15 jours ou 3 semaines, avec les paroles du président. Alors je voudrais donner deux petites explications qui ne sont pas très militaires, mais liées quand même, parce que c'est lié à la dissuasion nucléaire. La France a une position singulière en Europe. C'est le seul pays d'Europe qui a la dissuasion nucléaire, la puissance nucléaire. Et la puissance nucléaire, pardonnez-moi pour tous ceux qui ont eu une formation plus pacifiste que la mienne, c'est l'horreur. Non, c'est la paix. Grâce à la dissuasion nucléaire, la France est en sécurité. Mais pour être crédible, la dissuasion nucléaire doit s'appuyer sur une volonté, sur une force. Vous comprenez bien que si on dit à M. Poutine, en fait, ce que vous voulez, du moment qu'on n'est pas touché, il va dire, mais quelle est la crédibilité de votre force, là? Vous n'appuierez jamais sur le bouton. Or, comme vous le savez, c'est compliqué à comprendre. Mais c'est la crédibilité de celui qui va appuyer sur le bouton qui fait que l'autre ne va pas le faire. Et donc, cette crédibilité repose sur notre capacité à être fort. Poutine n'est fort que de nos faiblesses. Et être fort, si, si, je vois hocher dans la tête, il n'est fort que de nos faiblesses. C'est pourquoi, parce que depuis 2 ans, on a dit, bon, alors on ne va pas envoyer de chars, on ne va pas envoyer d'artillerie, on ne va pas envoyer d'avions. Et au fur et à mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Poutine, et je fais bien l'intention de parler de M. Poutine, non pas de la Russie, M. Poutine dictait la ligne de conduite. Aujourd'hui, on dit, et on n'a pas besoin de les nommer, et je disais tout à l'heure, peut-être, eût-il fallu éviter de la nommer, mais toutes les options sont ouvertes. M. Poutine, c'est à vous de vous inquiéter. Vous ne savez pas ce que nous ferons demain. Et non pas... Alors, au passage, les Américains ont été les premiers fautifs. Hein. Avant l'invasion russe, ils ont commencé à dire « pas un soldat sur le sol ukrainien ». Alors, on peut le penser, mais de le dire, c'est une porte ouverte. Donc, il faut être fort, il faut dire « toutes les options sont ouvertes » et étudier ces options et les prendre sans que l'adversaire sache quelles sont ces options au moment nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on va envoyer des soldats dans le Donbass. M. Zelensky lui-même a dit « je n'en ai pas besoin ». Mais peut-être a-t-il besoin, par exemple, des brigades qui sont sur la Biélorussie, qui sont face à la Biélorussie, où la Biélorussie, il y a peu de chances qu'elle attaque parce que je rappelle que son régime n'est pas très stable. Et pour les récupérer, ils ont peut-être besoin d'un autre dispositif. Voilà, toutes les options sont sur la tête. Donc, ce que je veux dire, pour conclure, l'Ukraine est dans une situation extrêmement difficile. Il faut tenir, et il faut tenir en particulier dans nos opinions publiques, de façon à dire « oui, nous soutenons l'Ukraine ». Il y a eu vote au Parlement et au Sénat, à l'Assemblée et au Sénat la semaine dernière. C'était très intéressant. J'ai été invité par un parti, plutôt à droite, qui m'a invité à lui présenter la situation. Et je sentais que le problème des députés, ce n'était pas le soutien à l'Ukraine. C'était des problèmes de politique intérieure. C'était « qu'est-ce que je vais dire à l'agriculteur ?» à qui on dit qu'il faut faire 10 milliards d'économies et qu'on va donner 3 milliards à l'Ukraine. C'est ça, son sujet. Deuxième sujet, si je dis oui, je vais soutenir un président que je ne soutiens pas. C'était ça, leur problème. Et ce n'était pas le problème fondamental, mais ils ont fini par bien voter, pardonnez-moi de dire bien, mais ils ont fini par le voter quand même, ils ont compris. Mais c'est ce soutien à l'Ukraine qui est important, et ce soutien à l'Ukraine, il n'est pas important seulement dans la voix d'un président ou dans les actions qu'on va entreprendre, mais dans le soutien du peuple qui est derrière. Et je reprendrai les paroles du Saint-Pape Jean-Paul II, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Voilà, merci.